السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. عفوا excusez-moi. بسم الله الرحمن الرحيم. Donc en principe, on a cours aujourd'hui de fiqh. Cours de fiqh. Alors, comme on l'a dit à plusieurs reprises, dans les rappels, dans les exhortations, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fiddin » Celui à qui Allah ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre, il l'instruit dans la religion. Les savants ont dit « Celui à qui Allah ta'ala ne veut pas du bien, il ne l'instruit pas, il ne lui fait pas comprendre la religion. » Donc une fois de plus, qui n'est pas une fois de trop, méfiez-vous. Nous, on peut être pris dans une sorte d'habitude, de monotonie ou toute autre parole ou terme similaire ou synonyme, mais pas le shaitan. Sauf, wallahu a'lam, sauf, Hayakallah Ziyad. Cheikh Ziyad. Sauf, je dis bien sauf, si toi tu es plus tenace que le shaitan. Wallahu a'lam, si tu es plus tenace que le shaitan, c'est lui qui va se lasser. Et si tu es moins tenace, c'est toi qui vas te lasser. Donc attention, dans l'étude de la science, les ennemis de l'islam, qu'ils soient les shayatin djinn ou ins, hommes ou démons, ils sont bien conscients de ça et ils mettent tout en place pour éloigner quiconque, même des gens des fois ne s'en rendent même pas compte. J'ai pas le temps, j'ai ça à faire, j'ai plus le temps, j'ai pas le temps... Jusqu'à ce que son but au shaitan, on a déjà expliqué, il a un stratagème sur le long terme. Lui, il sait que quand tu dis j'ai pas le temps, ça veut pas dire que tu vas pas arrêter. Mais lui, il sait aussi qu'à force de dire j'ai pas le temps, tu vas accumuler du retard. Et quand tu vas accumuler du retard, ça va te décourager. Et à la fin, tu vas dire j'ai pris trop de retard, je peux pas rattraper, je me sens que je suis. Boum, merci, au revoir. Donc je ne suis pas là pour vous, comme qui dirait, casser la tête, hein. Avec à chaque fois répéter la même chose. Mais c'est parce que nous, on est convaincus, on sait comment ça fonctionne. On a une expérience de beaucoup, beaucoup d'années, croyez-nous. Et on sait comment ça fonctionne. On n'a pas la science de l'invisible ni quoi que ce soit, mais on sait comment ça fonctionne. Petit à petit, il va essayer de t'éloigner. Parce que il sait que s'il te met hors jeu du talibul ilm, s'il te met hors jeu, tu seras peut-être son. Oh, il va jouer avec toi. Sauf si Allah Ta'ala en a décidé autrement. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même qui le dit, hein, dans le Coran. Il va assaillir. Il va assaillir le musulman de tous les côtés. Et pour pas se faire avoir, Allah Ta'ala lui a répondu, même s'il lui a dit, tu fais partie de ceux à qui je donne un répit. Attention, le sens du verset, hein. Rapprocher, sans se rapprocher du verset, même s'il lui a dit, tu fais partie de ceux à qui je donne un répit, mais tu ne pourras pas atteindre mes serviteurs pieux qui sont. Le sens du verset plutôt, hein, pas du hadith. Donc, Wallahu musta'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Soyez vigilants. Soyez vigilant. On a pris, c'est valable pour moi, c'est la même, hein, c'est valable pour tout le monde. On a pris un chemin. Et voilà, si vous vous accrochez, on a un bon programme et on a. Et surtout ne pas s'imaginer, Shaitan pourrait faire croire certaines choses que nous on essaye de retenir ou quoi que ce soit. J'ai toujours dit ça dans tous mes cours, même avant d'ouvrir l'institut. Dans la darwa, j'ai toujours dit ça. Les frères, il y a des frères qui venaient à la maison prendre des cours particuliers. C'est la première chose, une des premières choses où je les mettais en garde. Et ils me disaient, Subhanallah, c'est vrai ce que tu disais. C'est vrai. J'ai dit, tu vas voir, tu vas mettre un pied dans talab al-ilm. Tu vas commencer à voir des choses, tout pour te faire prendre un autre chemin. Arrêter les cours. Alors qu'avant, tu étais tranquille, serein. Là, c'est bizarre. Comme quand quelqu'un il va pour entrer dans l'islam. Je connaissais un converti. Du moins, à l'époque, il n'était pas musulman. Avant de se convertir, je lui disais, fais attention. Quand tu vas commencer à vraiment te rapprocher de l'islam et vouloir te convertir, le shaitan, il va te trouver une porte pour que tu n'entres pas dans l'islam. Il est venu me voir un peu plus tard, il me dit, Subhanallah, c'est vrai, je reçois des coups de téléphone de gens de Jahiliya que j'avais pas reçus depuis que j'avais perdu de vue. Vous savez que pour le shaitan, c'est facile, hein? Il va voir un tel ou un tel, il lui dit dans son esprit, hey, pourquoi tu contacterais pas un tel? Ça fait longtemps que tu l'as pas vu. C'est tout simple. Nous, on a ce qu'on appelle, du moins, la plupart des gens ne sont pas capables d'assimiler, de faire la différence quand c'est Shaitan et quand c'est vraiment toi, ton esprit, ton nefs. Il y a beaucoup de gens qui font pas la différence, hein. D'ailleurs, c'est pour ça que quand dans leur tête, ça leur dit va tuer un tel, ils vont le tuer normal. Il n'a pas compris que c'est un Wes-Wes et lui, il croit que c'est lui et il met en. Il va appliquer ce que le shaitan lui dit dans sa tête. Masha'Allah. Ah oui, vous inquiétez pas. Hein. C'est vrai. Tout ce que je dis, je n'invente rien. Wallah, j'ai comment dirais-je, des vécus, des récits, des. On peut pas tout raconter, on en a pour 15 ans à raconter tout. Mais on m'a déjà dit, tu pourrais écrire un livre. Donc vous savez, quelqu'un qui a une expérience de plus d'une vingtaine d'années dans la Darwa, il a côtoyé tous les genres de personnes, il a côtoyé même des gens qui étaient vraiment atteints de maladies, hein, vraiment atteints. Et qui, des fois, par eux-mêmes, te racontent, hein, voilà, les genoux, ça fait comme ci, les genoux, ça fait comme ça. Les stratagèmes du shaitan, on les apprend aussi avec les ulama. C'est une science. C'est une science. Alors, le nifs, c'est votre propre esprit, votre âme. Ça, c'est à vous. Ça, c'est vous. Et le shaitan, c'est un autre, comme qui dirait un autre esprit, qui vient, excusez-moi du terme, parce qu'ils n'ont pas droit, ils n'ont pas droit, c'est interdit pour eux. Violer votre esprit, il vient alors qu'il n'y a pas été invité, il rentre. Les ulama disent que les shayatines, ils sont comme de l'air, du gaz. Wallahu a'lam, hein. Ils circulent dans le sang. Et voilà. Il y a une personne, par exemple, qui va être Majnoun. Il y a lui-même et il y a le Jnoun. Il y a deux esprits. Alors, il faut être capable de faire la différence entre quand c'est son esprit et tout ce que insuffle le shaitan, etc. Alors, des fois, on est tellement atteint qu'on ne peut pas faire la différence parce que. Quand le shaitan prend le djinn, il prend le dessus, malheureusement, la personne, elle est effacée, elle n'est pas là. Elle est inconsciente à ce moment-là. C'est pas dans tous les cas. Il y en a qui sont conscients. Mais il y en a d'autres, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne peux pas te dire. Et toi, tu lui dis, ben voilà, t'as fait ça, il s'est passé ça, ça, ça. Donc, il faut être capable de discerner quand c'est des waswas et quand ça ne l'est pas. Et quand c'est soi-même, Wallahu a'lam. Al-Muhim, le sujet de cette introduction principale, soyez vigilants. Soyez vigilants. Donc, comme j'étais en train de vous expliquer, bien avant d'ouvrir l'institut, bien avant d'ouvrir l'institut, hein, ça fait quand même plus de à peu près 25 ans qu'on donne des cours, et bien avant de. Bon, on ne l'a jamais fait sous forme d'institut comme ça. Hein. Jamais, hein. Mais c'est Nirma, c'est encore mieux. Wafikum barakallah. On donnait des cours particuliers et on a toujours dit ça. On a toujours prévenu les gens, on a toujours dit ça. Nous, on ne fait pas ça pour retenir les gens ou quoi. Chacun est libre. C'est Allah qui est Razak. C'est Allah qui donne la subsistance. Donc. On fait les causes, mais ensuite tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, un talibul ilm, bien avisé, il fait des exhortations pour les cœurs, etc. On le fait, comme on l'a déjà expliqué, pour certaines raisons, parce que voilà, il y a des élèves qui en ont plus besoin que d'autres. Mais un talibul ilm bien avisé, il sait qu'il n'a pas besoin de retenir les gens. Les gens, ça doit venir d'eux-mêmes. À l'Institut de Cheikh Mokbel, il y avait des frères, lorsque tu veux partir, qui viennent, qui te conseillent, reste, on va t'aider, c'est quoi, t'as des difficultés, qu'est-ce que t'as, c'est l'argent, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Même une fois, j'ai voulu partir et il y a un des cheikhs là-bas qui m'a dit, non, pourquoi tu vas partir? Moi, je voulais changer de merkez. Arrivé à un moment, au bout de 2 ou 3 ans, j'ai oublié. Il y avait trop de gens de France et ça parle en français. On avait du mal à étudier. Et je voulais partir à Hadramaout. Et il y a un des cheikhs là-bas qui m'a dit, tu pars pas. Pourquoi tu veux partir? Et je suis resté. Al-Muhim, pour vous dire, Afwan, que à l'institut, on nous disait pas de Cheikh Morbel, même à la Jamia Islamia, si tu pars, c'est ton problème. Hein. Personne ne va te retenir. Hein. C'est toi qui perds. Donc, c'est à toi de savoir, de connaître la valeur des choses. Est-ce que si on va quitter un travail, on va dire, oh, ça me plaît plus. Combien de gens dans le monde ils font des travaux, ils ont un travail qui leur plaît pas, ils détestent ce travail. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce qu'ils aiment. Hein. Faut le savoir. Hein. Il faut le savoir, il n'y a pas beaucoup de gens qui font le travail qu'ils aiment, qu'ils ont choisi. Il y a beaucoup de gens. Ah, ils ont. Eh ben, ils se disent, je vais pas lâcher quand même mon travail comme ça. Hein. Et nous, pour Talab al-Ilm, alors? Un frère, une fois, m'a demandé, m'a dit, m'a demandé un conseil à l'institut. Oui, voilà, j'aimerais partir étudier en Égypte. Est-ce que vous me conseillez? Parce qu'entre l'institut et l'Égypte, les cours en Égypte, c'est très, très, très onéreux, etc. Qu'est-ce que vous me conseillez? Je lui ai dit, écoute, c'est juste un conseil, hein. Avec clairvoyance et Inch'Allah Ta'ala et expérience. Tant que tu n'as pas autre chose de mieux, ne lâche pas ce que tu as entre les mains. Je vais poser la question, Inch'Allah, il n'y a pas de souci. 2 petites minutes, Inch'Allah. Je vais poser la question, Inch'Allah, sur le iPhone. A'udhu billah minash shaitan rajim. Que disais-je? Non. Je lui ai conseillé quoi? Je lui ai dit, pour l'instant, tu es dans un institut, tu staffies, tu apprends, c'est très bénéfique, tu es dans le rappel. Mais qui te dit que ce n'est pas le shaitan? Tant que tu n'auras pas été là-bas, tu n'as pas les preuves. Tu ne peux pas être sûr que tu vas atterrir en Égypte. Combien de gens prétendent, mais ne font jamais, ou n'ont pas la capacité? Donc tu ne dois pas lâcher l'institut. Quand tu seras en Égypte, tu auras trouvé une structure mieux que la nôtre. Ça veut dire quoi mieux que la nôtre? Faut que tu étudies avec des étudiants ou avec des savants. Les sciences religieuses. Mais tu ne lâches jamais quelque chose si tu n'as pas mieux. C'est pas dans l'absolu, hein. Des fois, tu es obligé de lâcher un super appartement pour un moins bien parce que voilà, t'as plus les finances, t'as plus. Donc c'est pas dans l'absolu. Mais dans Talab al-Ilm, va pas lâcher le médicament pour rien du pour un médicament que t'es même pas sûr qu'il va se concrétiser. Un coup du shaitan. Un coup du shaitan. Ouais, tu vas y aller en Égypte, tu vas partir en Égypte, tu vas faire ci, tu vas faire ça. À la fin, t'auras arrêté l'institut. Et de surcroît, le shaitan, il t'aura tracé les choses de manière. Si Allah accepte, hein, de manière à ce que tu partes pas en Égypte. À la fin, plus d'institut, pas d'Égypte, la dunya. Alors que tu étais sur un bon chemin. Je vous donne des exemples, hein, par où le shaitan peut passer. Wallah, il faut bien calculer les choses. Vous me direz, je vais peut-être aller un peu à l'extrême, parce que tout le monde n'est pas censé comprendre ce que je vais dire tout de suite. Wallahi, même si tu vas te marier, pense à ton talab al-ilm. Je sais de quoi je parle, je vous le dis, hein. Pas je sais de quoi je parle, c'est mon cas, non. Je sais de quoi je parle avec les preuves du Kitabi wa Sunna. Ce ne sont pas des points de vue que je vous apporte. Wallahi, même le mariage et les enfants. Attention, question talab al-ilm. On a vu des grandes étudiantes qu'on connaissait personnellement, entre parenthèses, à l'Institut de Cheikh Mokbel, une Anglaise qui s'appelait Oum Abdillah, qui avait les clés de la Maktaba de Cheikh Mokbel, une grande étudiante. Hein. Et quand elle s'est mariée, elle a dit au frère, on se marie, mais tu m'empêches pas d'étudier. Pourquoi je vous dis ça? Un célibataire ou une célibataire, il est bien dans talibul ilm. Demain, il se marie, ça lui gâche tout. Moi, je veux pas que tu étudies, ou je ne sais pas, non, je veux que tu me consacres plus de temps, ou j'en sais rien, je ne sais pas. Eh bien, il aurait mieux valu pas te marier. Ah, ça vous étonne, ça va vous étonner, ça. Pas ne pas te marier dans l'absolu, mais pas avec cette personne. Les savants disent, tu n'as pas le droit d'empêcher à ton mari ou à ton épouse d'étudier. Surtout, c'est interdit de l'empêcher d'apprendre les masaïl obligatoires. D'accord, bon, je vais stopper mon cours 2 petites secondes. On me dit, il y a un iPhone dans la liste des élèves. Est-ce que ce iPhone peut se manifester chez les sœurs ou chez les frères? Si c'est une sœur, chez les sœurs, c'est chez les frères, c'est un frère. Pour savoir à qui on a affaire, barakallahu fikoum. Parce que en coulisses, on me dit, voilà, sinon il faudra éjecter cette personne qui est inconnue. Taïb. On va continuer le cours, c'est pas grave. On va continuer le cours. Non, je peux pas éjecter des gens comme ça, on sait pas. C'est peut-être un élève de l'institut, subhanallah. Taïb. Vous voyez, ça c'est pareil, hein, c'est un coup du shaitan, hein, croyez-moi, pour me faire oublier, pour. Allahu musta'an. A'ouzou billahi minash shaitani rajim. Qui pourrait me dire où j'en étais? Subhanallah. Barakallahu fikoum. Mashallah. Tamam. Tamam, tayyib. Il y avait une parole qui circulait à l'époque. Ça vous semblait aussi très étonnant. Hein? Barakallahu fikoum. Hayakumullah. Ça vous semblait également très étonnant ce que je vais dire. Hein? Ça vous semblait très 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 étonnant. Sauf pour ceux vraiment que le talab el-ilm, ça y est, il est rentré dans le cœur, ils comprennent ces choses-là. D'ailleurs, vous savez, je vais vous dire cette chose, pardon, et ensuite on va ramener un dalil. Comme ça, c'est encore mieux si on ramène le dalil. C'est mieux, hein? Alors cette parole qui se disait à l'Institut de Cheikh Mokbel, au début, j'avais du mal à la saisir tout au début quand j'ai commencé à étudier, j'avais du mal à l'assimiler. Il y avait les élèves qui disaient là-bas, il y avait une parole de salaf ou de savant qui disait, même un enfant que tu as eu, si il est un barrage pour toi dans talibul ilm, dans l'étude de la science, il aurait mieux valu pas avoir cet enfant. Alors les savants, plutôt les étudiants là-bas, ils expliquaient, ils partageaient cette parole dans un contexte pour faire assimiler aux gens l'importance de l'étude de la science. Tu ne dois rien laisser se mettre entre toi et la science. Parce que dans ta tombe, tu seras tout seul. Les questions sur le tawhid, dans. T'es tout seul. n'y a personne qui peut te dire non, tu n'apprendras pas, non, je t'empêche, ce qu'Allah ou Ta'ala, il t'a ordonné d'apprendre. Personne n'a ce droit. Pour vous dire, c'est une bid'a. C'est une innovation, disent les savants, d'empêcher les femmes d'aller à la mosquée. C'est une innovation. C'est interdit d'empêcher les femmes d'aller à la mosquée. Alors, je vais vous apporter un dalil qui va, inshallah ou ta'ala, vous éclaircir un petit peu plus cette affaire. Cheikh Mokbel, rahimahullah, a dit: prends garde à écouter la femme lorsqu'elle t'incite à délaisser la science. Également l'homme. Hein. Attention, également l'homme. Allah Ta'ala a dit: oh, vous qui avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: je n'ai laissé après moi de tentation plus préjudiciable aux hommes que les femmes. L'épouse d'Az-Zuhri lui disait: par Allah, tes livres me causent plus de tort que trois co-épouses. Et la plupart des femmes n'apportent aucune aide à leur époux dans l'étude de la science. Bien au contraire, elles l'incitent à la fainéantise. Donc ça, on ne met pas ça uniquement sur le dos des femmes. C'est valable pour les hommes. C'est valable également pour les hommes. N'interdisez pas à vos femmes, le messager d'Allah, a dit, n'interdisez pas à vos femmes de se rendre dans les mosquées, mais leurs maisons sont meilleures pour elles, pour la prière. Barakallahu fik, akhi Abdallah. Assalamu alaikum. Le fait que c'est interdit d'empêcher. Certains grands savants ne sont jamais mariés, tel Ibn Taymiyyah. Naham, marouf, naham, barakallahu fik. Assalamu alaikum, papa, le fait que c'est interdit d'empêcher à ton épouse d'apprendre les masaïl obligatoires. Oui, je n'ai pas compris. C'est ce qu'on a dit, hein, oui. C'est interdit de l'empêcher, vice-versa. Taïb. Donc, ça c'était pour vous dire quoi? Pour vous dire que le shaitan, il utilise différents stratagèmes. Il peut même utiliser votre propre famille. Il peut même utiliser vos proches. Tous les moyens sont bons pour vous détourner. Alors nous, des fois, on n'est pas conscient. Donc, vous devez être vigilant. Vous devez être vigilant. Voilà. Taïb. Donc, dans le cours précédent, notre cours de fiqh, on était arrivé aux biographies de nos quatre imams, grands imams de la Sunna. On avait fait la biographie de l'imam Abu Hanifa. On avait fait la biographie de l'imam Malik. Et rappelez-moi, si je ne m'abuse, on était arrivé à la biographie de l'imam Shafi'i. Est-ce bien ça? Tayyib, barakallahu fikum. Tamam, jayyid. Jayyid. Barakallahu fikum. Tamam. Donc l'imam Shafi'i, donc comme je l'avais dit dans le cours précédent, donc déjà avant, je reviens encore en arrière par rapport à mon introduction, accrochez-vous. Pour certains, ça sera le combat de leur vie. Accrochez-vous au talab al-ilm. Accrochez-vous. Ici, on a la facilité, on est dans un institut, on n'est pas acharné, si vous préférez, il y en a pour tout le monde. C'est pas un institut, c'est un peu, si vous préférez, comme à l'époque de Cheikh Mokbel, l'institut, il est libre. Tu choisis tes cours, T'as pas de, comment on dit, de... C'est pas trop trop de responsabilité, trop trop. Sauf pour ceux qui veulent vraiment s'investir à fond. Prendre toutes les matières, s'investir à fond dans Talibul Ilm. Mais sinon, ici, celui qui n'est pas capable de faire les contrôles, celui qui veut de l'aide à regarder dans le livre, celui, on est là pour faciliter. Wallahu a'lam, je ne sais pas si les autres instituts, ils fonctionnent comme ça. À ce que j'ai entendu, Allahu a'lam, c'est, ça plaisante pas. Hein. Institut, c'est comme à l'école. Hein. T'as pas fait le contrôle, t'as zéro, t'étais pas là, t'as zéro, t'étais trois absences, avertissement renvoyé. Nous, à l'institut, pour les sciences religieuses, on renvoie personne. Pour les absences, on renvoie personne. Les seules personnes qu'on renvoie, c'est ceux qui font de la fitna. C'est tout. On a déjà malheureusement renvoyé des personnes. C'est pour éviter la fitna. C'est tout. Sinon, quelqu'un, il veut suivre l'institut, il veut... Marhaban. Il n'y a pas de souci. Et vous verrez qu'on a un programme, celui qui va patienter. C'est un sacré programme, je vous le dis. Taïeb. Tamam. Alors, Siratul Imam Ash-Shafi'i. Imam Ash-Shafi'i. Donc, la biographie de l'imam Ash-Shafi'i. Alors, attention, quand on ne connaît pas comme ça, on entend juste, on connaît l'imam Ash-Shafi'i de nom, c'est une première faïda. Lorsqu'on entend l'imam Ash-Shafi'i juste de nom, on le connaît de nom comme ça, on n'a pas la perception vraiment de la valeur. Du rang de l'imam Ash-Shafi'i. Attention, l'imam Ash-Shafi'i, c'était un des plus, on va voir dans sa biographie, mais vraiment un des plus savants. L'imam Ash-Shafi'i également, c'était pas n'importe qui. Alors, j'avais une parole que j'avais vue. Je pense qu'on l'avait faite, mais je voulais quand même la répéter si on ne l'a pas faite. Voilà. Concernant l'imam Malik, c'est juste pour vous remémoriser quelque chose de très important. Dans la biographie de l'imam Malik, on avait dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit concernant les fondements de l'imam Malik, on a dit que chaque imam avait dans le fiqh, on avait dit que chaque imam avait des fondements, c'est-à-dire ce qu'on a fait dans le contrôle dernier dans Usul Fiqh, c'est-à-dire Kitab, wa Sunna, wa Ijma, wa Qiyas, etc., etc., etc. Eh bien, l'imam, plutôt Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous dit que les fondements de l'imam Malik, celui qui médite les fondements de l'islam, ses règles et sa législation, et il trouvera que les fondements de l'imam Malik et les gens de Médine sont les plus proches et les plus authentiques concernant les fondements et les règles. Ça, c'était juste un rajout par rapport à l'imam Malik. Je ne sais pas si on l'avait dit, mais en tout cas par rapport à l'imam Malik, pour vous dire que l'imam Malik aussi, c'était vraiment... Il y a des savants qui ont témoigné. Des salafs hein, qui ont témoigné, ils ont témoigné de leur propre époque, l'époque de l'imam Malik, en disant, on n'a pas vu plus savant à notre époque que l'imam Malik. Si on cherche la personne la plus savante à l'époque de l'imam Malik, c'était l'imam Malik. Donc tout ça, c'est pour vous sensibiliser sur ces grands imams, que c'est pas juste des noms, l'imam Malik, l'imam Ahmed, l'imam... C'est vraiment quelque chose, hein. C'est vraiment Quand quelqu'un vous dit, l'imam Malik a dit, faut vous asseoir et écouter. Tamam. Comme on l'a dit, l'imam Malik, c'était le premier qui a fait un recueil authentique de hadith, qui était au tout début la référence, hein, la référence, jusqu'à ce que sont arrivés. C'est cette personne qui a continué à étudier ou à écrire un épître sans aller à. Il faut que je voie entièrement le. Salam alaikum, wa alaikum salam, rahmatullah. C'est cette personne qui a continué à étudier ou à écrire un épître sans aller à l'enterrement de son enfant. Allahu alam, on l'avait vu en cours. Mashallah. Je réfléchis. Il me semble que c'était l'imam. L'imam. Je ne sais pas si c'était l'imam Malik. Qaddarallahu ma shay fa'al, j'ai oublié. Tellement d'infos, tellement de fawaïd, tellement que celle-ci, je l'ai oubliée. Il faudra que je réfléchisse, mais ça va me prendre trop de temps à réfléchir. Si ça me revient, je vous dirai, Inshallah ta'ala. Barakallahu fikum. Un dalil de plus, hein. Un dalil de plus que. Fikum barakallah. Un dalil de plus pour dire que voilà comment étaient les salafs. Voilà comment étaient les salafs. Au point que. Allahu Akbar. Hein. L'ilm, ça passait avant. Pas avant les obligations, il y a des obligations, mais faut pas négliger le ilm. On peut toujours s'arranger selon nos priorités. Donc l'imam al-Shafi'i, son nom, sa parenté, sa kunya, Abu Hua Abu, Abu Abdillah Muhammad ibn Idris, ibn al-Abbas, ibn Uthman, ibn Shafi'i. Bni Saïb, Bni Ubaid, Bni Abdelyazid ou Abdiyazid, Bni Hashem, Ibn Muttalib, Bni Abdelmanaf, Bni Qusi, Bni Kilab, Ibn Marra, Min Ka'b, Ibn Louay, Ibn Ghalib. Il a une. Ah oui, hein, c'est ce que j'allais dire parce que وَيَلْتَقِي بِالنَّسَبِ النُّبُوَّةَ طَاهِرٌ فِي عَبْدِ الْمَنَافِ. C'est ce que je me suis dit parce que quand j'ai lu son arbre généalogique, je dis Subhanallah, attends, il a une parenté avec le prophète, Subhanallah. Effectivement, il a une parenté avec la prophétie, la parenté de la prophétie qui remonte à Abd el-Manaf. Alors pour ceux qui connaissent l'arbre généalogique du prophète, surtout ceux qui ont appris le metn des trois fondements, automatiquement ils connaissent l'arbre généalogique à peu près du prophète. Donc pour eux c'est pas nouveau tout ça. Tamam. Deuxièmement, sa naissance. L'imam Shafi'i est né en 150 de l'Hégire. Firazza. Fi, Raza, alors Raza, on nous dit, on sait déjà où ça se trouve, hein, mais c'est juste pour vérifier. Ben non, ils vont pas le dire, hein. C'est tellement. Ils nous disent juste que tu trouves ça dans Sir Alam al-Nubula. Tamam, donc Raza en Palestine. Wamet, hein. Waladuhu fiha. Et son père, il est mort là-bas. Omar al-Shafi'i sanaten, alors qu'il avait 2 ans. Fahamalatuhu ummuh ila Mekkata. Puis sa mère l'a emmené, Palestine, barakallahu fiikum. Puis sa maman l'a emmené à Mekka. À Mekka. Fanasha yatiman fi hijriha. Il a donc vécu un orphelin L'imam Malik. Alors, c'est une petite faïda pour vous ici au passage. Pourquoi l'imam Malik a vécu orphelin? Il avait sa mère. Parce que. Car il a perdu son père. C'est une réponse, mais. Pourquoi je l'ai posé? Parce qu'il y a un détail dans cette réponse. En fait, c'est une réponse. Non, parce que. Si on dit parce qu'il a perdu son père, c'est une réponse, mais incomplète. Alors. Parce que les savants disent Ahsanti. Très bien, Ahsantunna. Très bien à nos étudiantes. Avant la puberté. Avant la puberté. L'orphelin, c'est celui qui a perdu son père avant la puberté. Après la puberté, t'es pas considéré, Wallahu a'lam. Ahsant. Chafiri, oui, si j'ai dit autre chose, Hakim, tu sais, des fois, sabaq al-lisan, la langue, elle parle à notre place. Salamu alaikum, Aoustaz, vous parliez de Malik après Chafiri. Donc là, on est dans Chafiri, hein, si j'ai dit Malik, vu que son père est mort et que l'homme est chef de famille, la puberté, tu n'es qu'un enfant, ensuite tu es un adulte. Nous, ce qu'on connaît, c'est, faut dire, qu'avant la puberté, la personne est orphelin. Naham. Taïb, on n'entre pas dans le détail de ça. C'était juste une faïda pour vous. C'est une faïda pour vous. Alors, Shafi'i, Fahal Mekka. Ensuite, sa mère, elle l'a amené à Mekka. Wa'tanat bi tarbiyatihi. Elle s'est occupée de son éducation. Ashaddul inaya. فأرسلته إلى المعلم ليحفظه القرآن ليحفظه. Donc sa maman, elle s'est occupée avec une grande attention de son éducation. Elle l'a envoyé directement chez un enseignant pour mémoriser le Coran. Alors avant de continuer, on a encore une faïda ici. Vous remarquerez que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Shafi'i, regardez bien, c'est une faïda ici. Les deux, ce sont leurs mères qui ont été les causes de leur du fait qu'ils aient baigné dès le plus petit âge dans la science. Donc je pense que vous avez compris le message. Vous avez compris le message. L'importance du rôle de la maman. Et que beaucoup de mamans sont les causes, sont de très très bonnes causes, comme pour l'imam Malik et comme vous le voyez ici, l'imam Ash-Shafi'i. Wabarda an khatama. Al-Shafi'i, Al-Qur'an. Après qu'il ait mémorisé le Qur'an, l'imam Al-Shafi'i, il est entré à la mosquée, il a commencé à s'asseoir avec les savants, à apprendre les ahadiths du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, à apprendre les questions de fiqh. Il notait auprès de grands savants. Il a terminé, clôturé l'apprentissage du Qur'an à 7 ans, il a appris Al-Muwatta de l'imam Malik alors qu'il avait 10 ans. Qur'an à 7 ans, Al-Muwatta de l'imam Malik à 10 ans. Kama étadja Shafi'i ma'a dhalika ila tafsir fil arabiya. Également, lui-même Shafi'i, il est devenu un spécialiste, comme on dirait, hein, de la langue arabe. Il est parti, Fakharaja min Mekka ila al-Badia. Il est donc ensuite sorti de Mekka pour les contrées les montagnes, hein, ou les déserts. Puis il a rejoint une Kabila, une tribu qui s'appelle Houdaï. Wakanat min afsah qabaïl al-Arab. Donc, il est resté avec eux parce qu'ils étaient les plus instruits dans la langue chez les Arabes. Il est resté avec eux 20 ans. Non, plutôt, pardon. Fihim ashara sinin, 10 ans. Il a appris avec eux les poèmes. Il a appris avec eux, il a tiré d'eux, il a pris d'eux leur éducation. Au point où il est devenu, il a reçu la transmission des poèmes, spécialiste de la transmission. Il a également trié dans cette tribu et pris le meilleur de leurs coutumes, de leurs habitudes. Hatta kana yarmi as-saham fa yusib min 10 9 wa fi riwaya 10 3 rihlatuhu al-'ilmiyya. Alors, on nous dit ensuite que l'imam Shafi'i, il a commencé très tôt l'étude de la science, à voyager. On nous redit encore, hein, on nous répète ici, il a appris le Coran alors qu'il avait 7 ans, il a mémorisé Al-Muwatta alors qu'il avait 10 ans, et lorsqu'il est revenu des contrées, il a commencé à étudier le fiqh et ses fondements avec un cheikh de Mekka et un mufti, Muslim ibn Khalid Zanji, Aouzunji. Hein. Fatafaqqaha alayhi. Il s'est donc instruit de l'apprentissage et de la compréhension chez ce cheikh Khalid Zanji, Aouzunji. Faudra vérifier, il n'y a pas les shekels ici. Fatafaqqaha alayhi wa ala ghayrihi min shuyukh Mekka. Donc il a profité de ce cheikh et d'autres cheikhs parmi les shuyukh de Mekka. Taïb. وكان الشافعي رحمه الله في طالب العلم من هو من لا يشبع. Donc Shafi'i, hein, il ne se rassasiait pas dans la science. C'est pour cela qu'il a supporté le chemin du talab al-ilm, hein, la fatigue que cela comporte, les difficultés. On nous dit qu'il a voyagé dans les contrées musulmanes, il a rencontré les savants, les grands chouyours, et il a stafid, c'est-à-dire il a vraiment, vraiment l'imam Shafi'i profité. Donc, la première fois qu'il est parti, l'imam Shafi'i à Médine, on nous dit à Médine. Devinez qui il a rencontré à Médine, l'imam Shafi'i. Petite devinette. Hein. L'imam Shafi'i, mashallah, l'imam Malik, Ahsant. Ahsant. L'imam Malik. Il a rencontré l'imam Malik. On nous dit, falaqiya l'imam Malik, faqara al-muwatta alayhi. Donc l'imam Malik, plutôt l'imam Shafi'i, il a rencontré l'imam Malik et il a étudié, il a lu. Appris donc le Muwatta auprès de l'imam Malik lui-même. Et ensuite, l'imam Malik, il l'a autorisé à transmettre, à le lire aux gens. L'imam Malik, il a également autorisé l'imam Shafi'i à faire des fatwas. Et il resta sur cela pendant, on nous dit, 8 mois. Donc on a une info ici, c'est que l'imam Shafi'i a été l'élève de l'imam Malik. Ensuite, on nous dit son premier voyage à l'imam Shafi'i en Irak. Son premier voyage à l'imam Shafi'i en Irak. L'imam Shafi'i a voyagé de Médine en Irak. Imaginez-vous, hein, le chemin qu'il a dû faire. n'y avait pas les voitures. Hein. Pour rencontrer Mohammed ibn Hassan ou Abi Yusuf, Sahabi Abi Hanifa. Donc il est parti pourquoi? Pour Afwan, il est parti pour rencontrer des apôtres, hein, comme on peut dire, des Zoumala, des amis de l'imam Abi Hanifa. Tamam? Quand on dit il resta sur cela sur 8 mois, c'est-à-dire qu'il restera auprès de Malik 8 mois après l'apprentissage du Mouatta. Oui, voilà, c'est ça. Nahamachi. Fa'aqama hakada inda thamaniyat ashhur. Non, c'est-à-dire que il transmettait aux autres pendant 8 mois, il a transmis et il a fait des fatwas. Pardon. C'est ça que ça veut dire, wafik barakallah. C'est ça que ça veut dire. Après avoir étudié avec l'imam Malik l'a autorisé, lui a donné la permission de transmettre le Muwatta, de faire des fatwas, etc., des fatawas. Il a fait ça pendant 8 mois. T'as même? Ensuite, il est parti, il a rencontré des compagnons de Abi Hanifa. Ensuite, il est parti vers le nord de l'Irak. Et il est resté là-bas une bonne période. Puis, il est parti en Palestine. Alors, ce voyage, il l'a fait 2 années, de l'année 172 à l'année 174. Et on nous dit, à ce moment-là, il a augmenté sa science. Alors, on nous dit également l'imam Malik, plutôt l'imam Shafi'i, dans tous ses voyages, il s'est instruit de quoi? Surtout dans son dernier voyage, là. On nous dit qu'il s'est instruit du comportement des Arabes, de leurs coutumes et habitudes et de leur langue. Donc vous voyez que des fois, pour apprendre les habitudes d'un peuple, la langue d'un peuple, faudra se mélanger avec eux et c'est ce que j'avais conseillé pour ceux qui veulent vraiment apprendre l'arabe. Naham. Puis ensuite, on nous dit son deuxième voyage à Médine. L'imam Shafi'i voyagea à Médine, donc de l'Irak, hein, de la Palestine, pardon, de la Palestine à Médine. Et là, il a encore rencontré l'imam Malik, rahimahullah. Et là, il est resté 4 ans et 1 mois, jusqu'à la mort de Subhanallah, Allahu Akbar. Jusqu'à la mort de l'imam Malik. Rahimahullah, l'imam Malik. Notre grand imam. Rahimahullah. Fishahr, dans la mort de l'imam Malik, le mois de Rabi' al-Awwal, en 179 de l'Hégire. Et l'imam Shafi'i, à cette époque-là, il avait quel âge? Tis'in wa 'ishrun sana. 29 ans. Il avait 29 ans, subhanallah. Et on a dit que l'imam Malik, qui peut nous dire à quel âge est mort l'imam Malik? Il a vécu longtemps, l'imam Malik, Allah ibaraka. Il a vécu longtemps, l'imam Malik. Qui se rappelle Ahsanti, mashallah, 86 ans. Ibarak. Dans les 80, oui, c'est ça. Dans les 80, 86 ans à peu près. Hein. Mashallah. Vous savez que, wallahu alam, on dit que si Allah Ta'ala, il te donne la faveur de vivre plus de 60 ans, faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la majorité de Naham et Nirma, parce que la majorité de ma communauté, le prophète sallam a dit, l'âge de vie, c'est la soixantaine. Hein? Wallahu a'lam. Taïb. Alors, on en était où? Voilà la mort de l'imam Malik, l'imam Shafi'i, avec quel âge? 29 ans. Et ensuite, regardez, l'imam Shafi'i, il est parti où? Il est parti au Yémen. Après la mort de l'imam Malik, il est parti au Yémen. فأحسن إدارته ونرث الناس عليه وحب الوالي ولم ينقطع من ذلك على طلب العلم. Alors quand il est arrivé là-bas, les gens, ils le connaissaient, ils l'aimaient bien, etc. بقى الشافعي رحمه الله في اليمن مدة من الزمن حتى استدعاه الخليفة هارون الرشيد. Puis on nous dit que l'imam Shafi'i, il est resté une longue période, il est resté un, c'est pas spécifié, mais il est resté une longue période au Yémen, jusqu'à ce que arrive le règne de Harun Rashid, rahimahullah, en Irak. Puis l'imam Shafi'i, son deuxième voyage en Irak. Il est parti donc ensuite du Yémen en Irak. Il a voyagé, Allah Ibaraka. Il est parti ensuite du Yémen en Irak. Il a rencontré le gouverneur Rachid. Au Yémen. Hein. Puis ensuite, il est retourné à Mekka. L'imam Shafi'i, il est retourné à Mekka. فسافر إلى مكة en 181 وأقام فيها 17 سنة. Et ensuite, il est resté 17 ans à enseigner aux gens à Mekka, à propager son école jusqu'à ce qu'il retourne en Irak. Ensuite, on nous dit troisième voyage en Irak. Alors, l'imam Shafi'i, il a quitté la Mecque lorsque les deux imams, Abu Yusuf ou Mohammed ibn Hassan, ces deux grands savants, et que Harun Rashid, le gouverneur de l'époque, il est mort également. Shafi'i a vu qu'il pouvait retourner à ce moment-là en Irak. Il est retourné en Irak en l'an 198 de l'Hégire. Et il est resté un mois. Ensuite, on nous dit, il a voyagé en Égypte. An yurafiquhu fi safar. ودخل الشافعي المصر مصر فابتدأ حياته العلمية فيها. Donc il est parti en Égypte et il a commencé sa vie scientifique là-bas. L'imam Shafi'i en Égypte. تمام؟ وصار يلقي دروسه أو دروسه بجميع عمرو ابن عاص Donc, il a commencé à donner des cours à l'institut de Amr ibn As, et ces cours étaient différents. Il y avait dans les cours de l'imam Shafi'i différentes matières. Il y avait des cours sur Ulum al-Qur'an, les sciences du Qur'an, des cours sur la science du hadith, al-Munadhara. Al-Munadhara. Également, il y avait des cours sur le Munadhara. Al-Munadhara, c'est comme les débats, les divergences, les débats. Wal-Arabiya, la langue arabe, les poèmes et la grammaire. Alors, juste une faïda pour vous. Hein. C'est pas encore pour vous en rajouter, pour vous. Mais regardez, regardez les savants. tout ce qu'ils ont voyagé, tout ce qu'ils sont. Et nous, façon de parler, hein, c'est une façon de parler, c'est une parabole, on a la science sur un plateau. Donc avis à bon entendeur. Barakallahu fiikum. Avis à bon entendeur. Ensuite, sa mort. Sa mort. L'imam al-Shafi'i est resté en Égypte 5 sinin wa 9 ashhur. Il est resté 5 ans et 9 mois à enseigner aux gens. Alors, en l'an 204, Allah Ta'ala a décidé de prendre son âme. Alors qu'il avait Arba'a wa khamsun sana, subhanallah. 54 ans. Lui, par contre, l'imam Malik, il n'a pas vécu 54 ans. L'imam Shafi'i, pardon. تقدم أن الإمام الشافعي رحمه الله ترحل في طالب العلم إلى عدد من البلدان من المدن والأقطار الإسلامية وكان يلتقي في كل مدينة وقطر بكبار علمائه وشيوخه يأخذ عنهم ويسمع منهم يحاوروهم donc tout ça on l'a dit hein. Yémen, Irak, il est parti au Yémen, en Irak, à Médine, à la Mecque, en Palestine. Naam. Donc, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, on va se contenter de ça. Y a encore des choses, hein. Mais ce n'est pas beaucoup, mais y a encore des choses dans la biographie de Shafiri. Naam. Mais aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, ça n'actafi bi hadha al-qadr. Juste avant que j'oublie, Wafikum barakallah, avec plaisir. Comment peut-on trier entre deux coutumes, tribus, quelles sont les mœurs à adopter et celles à ne pas adopter, comme a fait l'imam Shafir? Est-ce qu'on peut prendre le meilleur des coutumes françaises, par exemple? Si oui, comment faire le tri? Alors, pour différencier entre les coutumes permises et celles qui ne sont pas permises, puisque les savants disent que y a des coutumes qui sont permises tant qu'elles ne contredisent pas le kitab ou la sunna, il n'y a pas 36 solutions. Il faut apprendre le kitab ou la sunna et c'est ce qui te permettra de savoir quand une coutume elle est halal ou elle est haram. Voilà. Les savants disent qu'il y a des habitudes, des coutumes qui sont permises dans l'islam parce qu'elles ne contredisent pas le kitab wa sunna, si elles le contredisent. Donc, après, concernant les Français, c'est autre chose, c'est un peu compliqué. Parce que les Français, c'est des kofars. Et le problème qui se pose, c'est que les kofars, il y a le fait qu'on n'a pas le droit de les imiter. Donc, c'est problématique avec les Français. C'est plus problématique. Non. Voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un élève qui s'est. On m'a dit en coulisses, hein, donc c'est pas. Moi, je ne m'occupe pas de ça, mais on m'a dit, il y a un élève qui s'est connecté en mode iPhone. Dans le prochain cours, si cette personne ne se manifeste pas, je l'informe que les administrateurs seront obligés de ne pas l'accepter dans le cours. Parce qu'en inconnu comme ça peut causer des problèmes. Il y a des gens qui se sont manifestés dans des Zooms de chouïour et qui ont carrément mis un virus ou je ne sais plus quoi et la Zoom elle a sauté et voilà. Donc nous on aime bien savoir, être sûr que ce sont nos élèves qui sont voilà. Donc si cette personne ne se manifeste pas dans le prochain cours, elle ne pourra pas participer. Subhanallah, à ce genre de cours, on constate que nous sommes effectivement une génération fatiguée. Malheureusement, c'est ce que j'essaye un peu d'inculquer. Au début du cours, on parlait de faire la différence entre notre âme et le shaitan. Mais c'est quoi le libre arbitre? C'est quoi sa place dans la religion? C'est une innovation? Non, 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 non. Le libre arbitre, ce n'est pas une innovation. Le libre arbitre signifie que Allah Ta'ala, malgré qu'il décrète et que rien ne peut se faire sans son décret, on va le faire dans le tawhid, ne vous inquiétez pas. Mais ça vient après. Eh ben, malgré le fait qu'Allah Ta'ala y décrète, il te laisse le choix. Il te laisse le choix, le libre arbitre. De faire le halal, le haram, le bien ou le mal. Et on rendra des comptes. On a le choix en réalité. Donc, par rapport aux jnoun, etc., les possessions, etc., celui qui est, si on peut dire ça comme ça, hein, possédé, comme les savants le disent, il n'est pas responsable au moment où il est possédé, s'il n'a plus sa raison. Il n'est pas responsable, le jnoun, il fait dire des choses, il fait faire des choses, il fait des trucs. Les savants disent, il n'est pas responsable. Par contre, quand il reprend sa raison, il est lucide, là, il est responsable. C'est valable pour les salats, c'est valable pour le jeûne, c'est valable même pour les rites de l'islam, pour celui qui est vraiment malade. Voilà, je regarde chez les frères s'il y a des... Il a des questions. Vous avez dit, il a passé ce temps à enseigner son école. C'est dans le sens enseigner ses enseignements, mais il n'avait pas d'école. Malik, qui est venu par la création et la compilation des gens, Sanon Barakallahoufik. C'est l'imam Shafi'i qui a plutôt, c'est pas l'imam Malik, c'est l'imam Shafi'i. Lorsqu'il a voyagé, il s'est installé, comme on l'a dit, et il a commencé à enseigner son madhhab, son école. Puisque lorsqu'il est devenu un imam et qu'il a commencé à être mujtahid et autonome, c'est là qu'il a commencé à prendre ses marques en tant qu'imam indépendant et tout en ayant différents points de vue par rapport à l'imam Malik. Tamam? Wallahu a'lam. De rien, mon frère. Je vais te donner un exemple, Abdullah. Abdullah, l'Abdullah nous dit oui, mais à cette école, il n'y avait pas encore, à cette époque, il n'y avait pas encore d'école Shafi'i. Bruce Lee, il a enseigné son art tout au début. Il n'y avait pas encore d'école de Bruce Lee. C'est pareil pour Ip Man. Excusez-moi pour l'exemple. Excusez-moi pour l'exemple. J'ai voulu donner un exemple. Ils ont commencé à enseigner. Il était tout seul au début. Et voilà. Ça reste son madhhab. Ça reste lui, le professeur de son madhhab. C'est pas obligé qu'il y ait une école. Elle n'existait pas, mais lui, il existait avec son madhhab. Wallahu. Donc, y aurait-il des questions? Y aurait-il des questions avant que nous soyons, que nous concluons ce cours? Alors, subhanallah, après ce genre de cours, on constate que nous sommes effectivement une génération fatiguée. En fait, c'est bien d'en prendre conscience. C'est bien de prendre conscience. Il faut prendre conscience de la ni'ma dans laquelle on est. On a tout à disposition, on a du numérique, on a, ils n'avaient pas tout ça. Et avec tout ça, on est, oh, je ne sais pas si je vais continuer, oh, je sais, oh. Il faut, excusez-moi du terme, c'est un terme qui vient vraiment des anciens, c'est mes parents, même les anciens, ils parlaient comme ça, faut te décarcasser pour étudier. Normalement, tu dois te décarcasser. Excusez-moi du terme, hein, c'est un peu jargon. Mais c'est un terme lourd de sens. Tu dois faire, mais, parce que faire tous les efforts, c'est faible. Tu dois te, comme ils disent les jeunes, tu dois charbonner pour. Nous aujourd'hui, on n'a même pas besoin. On n'est même pas en sueur. On transpire pas. On n'est pas les habits tout noirs. Il y a des aqwal de salaf, des imams, ils avaient les pieds en sang tellement ils marchaient. Pour aller chercher un hadith, pour aller chercher une faïda, pour aller chercher le ilm. Allahu Akbar. Est-ce qu'on a le droit, nous, d'être laxiste ou de dire, quelle que soit le barrage, tu dois essayer vraiment de passer outre. Parce que moi, je sais pertinemment que dans la dounia, quand on a des barrages, on fait tous les efforts. On va même jusqu'à s'endetter, on va même jusqu'à... On lâche pas. Alors pourquoi le talab al-ilm? C'est parce qu'on n'a pas encore saisi la valeur du talab al-ilm en réalité. On n'a pas saisi, comme le disent les savants, l'étude de la science, c'est mieux que de respirer, de boire, de manger. Hein. Wallahu a'lam, en tout cas, sanaktafi bihad al-qadr. Je vais, inshallah ta'ala, laisser la Zoom ouverte. On se donne rendez-vous, inshallah ta'ala, dans une vingtaine, voire un peu plus, de minutes pour le deuxième cours. Je crois que c'est la croyance. Barakallahu fiikum pour votre présence, votre participation et tout ce qui s'ensuit. Hayyakum Allah li ta'atihi wa nas'alullah lihi wa lakum. On demande à Allah pour nous et pour vous la science utile, l'ilm nafi' wal jannah et le paradis, wal istimrar wal mudawama ala al-thabat ala al-haq et la continuité sur le raffermissement de d'être raffermi sur la vérité. Wa subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka wa fikum barakallah wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin.